7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines du lundi au vendredi sur RFI. Aujourd'hui, la parole est aux hommes qui s'engagent pour les femmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez les voisins, mais c'est vrai qu'un homme qui défend les droits des femmes ou l'égalité entre les sexes, c'est toujours assez suspect. C'est pour cela que nous avons décidé d'en savoir plus sur ces hommes qui réclament le partage des tâches ménagères, l'égalité salariale, la pénalisation des clients de prostituées et qui sont prêts à voter pour des femmes en politique ou du moins à leur laisser une place dans les partis, dans les entreprises. Parler entre hommes de la place des femmes, voilà notre débat, même si je tente de m'immiscer. Patrick Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, cofondateur de l'association Zéro Macho, qui est un réseau international d'hommes qui luttent contre la prostitution et pour l'égalité entre les sexes. Et vous avez publié « Les hommes veulent-ils l'égalité ?» Dans le fond, hein, c'est ça. Antoine de Gabrielli, vous êtes également parmi nous, chef d'entreprise. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association Mercredi c'est Papa et le mouvement Happy Men. En gros, c'est pour que les hommes soient moins ridicules quand ils disent qu'ils vont chercher les enfants à l'école, c'est ça ?
Ça peut être ça.
Ça peut être ça, entre autres. Vous avez tous deux participé à la campagne He for She, lui pour elle, lancée par les Nations Unies, preuve que maintenant le débat est bien mondial. Et bien sûr, les voisins, nous souhaitons vous entendre réagir en direct. Les hommes doivent-ils, selon vous, s'engager pour les femmes ? Et si oui, pourquoi ? Sous-entendu, pour quel bénéfice ? Il n'y a pas si longtemps, je recevais dans ce studio un chef d'entreprise africain qui me disait que cela ne l'intéressait pas d'être riche entouré de pauvres. Est-ce que le raisonnement est valable pour les inégalités hommes-femmes ? C'est une question qu'on pourra poser. Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous continuez de poster sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Je vous lis quelques messages sur Facebook. Un internaute qui a le sens de la logique écrit ceci. Les hommes ne devraient pas militer pour une égalité avec les femmes. Ce sont les femmes qui veulent cette égalité, pas les hommes. Non. Bon, je continue.
Il a raison.
Il a raison. D'accord. Jusque-là, tout va bien.
Non, sur les hommes
pas
qui
forcément.
Sur les
pas forcément. Qui non.
Bon, ah, Yves Douala, au Cameroun, les hommes doivent militer pour les droits des femmes car elles font partie de la société tout autant qu'eux et elles sont très importantes pour le fonctionnement de celle-ci. Pierre, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, si vous lisez la Bible, Dieu nous a créés le même jour. Bon. Junior, pas d'accord, également à Kinshasa, la parité vient du diable car Dieu, le même Dieu, donc, n'a pas fait l'homme égal de la femme. Christophe.
C'est pas ce que dit le Deutéronome.
Christophe à Marseille. Si l'homme est égal à la femme, c'est le début de la décadence. Je suis contre l'égalité homme-femme.
D'accord.
Émar à Brazzaville, je constate avec regret qu'aucun pays dans le monde ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être parvenu à instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
C'est vrai.
Y compris en Europe du Nord, vous trouvez ?
Ils progressent plus vite que nous, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
La France est probablement on dit parfois que la France est le paradis des femmes. C'est pas faux. Je pense que la France est bien mieux située que les pays du Nord.
Pour les femmes, vous voulez dire ?
Pour les femmes, c'est un des rares pays où les femmes qui ne travaillent pas, où les femmes qui travaillent ne sont pas stigmatisées. Ce qui n'est pas le cas dans le Nord.
Oui, c'est-à-dire culturellement, c'est ça. C'est
absolument.
Qu'on ne leur jette pas l'opprobre.
Moins qu'ailleurs.
Je pense que si on compare la situation de la Suède à celle de la France, c'est quand même absolument pas comparable. Ou du Québec, que je connais beaucoup mieux, la situation des femmes au Québec est évidemment largement préférable à celle des femmes en France aujourd'hui. Ça, c'est très très clair.
Pascal, à Goma, l'égalité entre l'homme et la femme n'aboutira jamais. La femme restera toujours liée à la maternité et à la soumission à son mari. On ne sait pas si c'est son opinion.
Mais en fait, tout ce que disent ces gens, c'est que il y a 200 000 ans d'histoire de patriarcat, d'une société qui est fondée sur une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'on va détruire cette société, on est en train d'en créer une nouvelle qui est fondée sur d'autres valeurs, des valeurs plus égalitaires entre hommes et femmes, entre gens qui ont des couleurs différentes, entre gens qui ont des orientations sexuelles différentes. Et c'est vrai qu'on casse un modèle pour en créer un autre. C'est une grande transformation anthropologique. Et donc, évidemment, tous ces gens regrettent la société qui est en train de partir, qui est en train de mourir. Et nous espérons l'avènement de cette nouvelle société qui est en train de se mettre en place. C'est une opposition classique, idéologique.
Vous n'avez pas l'air inquiet, vous, de cette transformation.
Je suis pas inquiet parce qu'on est en train de... de gagner, pas parce qu'on le veut, pas parce qu'il y a des mouvements égalitaires, parce que c'est ce qu'on appelle une émergence. C'est-à-dire c'est quelque chose qui jaillit à partir de transformations sociales beaucoup plus profondes, comme le capitalisme, la société post-révolutionnaire, etc. C'est une société qui dans ses profondeurs se transforme et dont la conséquence est une marche vers le respect de l'individu, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe ou son orientation sexuelle ou d'autres paramètres encore. Donc ces gens-là, ils ont perdu. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ils sont violents. Ils savent qu'ils ont perdu.
Abdourahmane, à Conakry, en Guinée, je suis pour l'émancipation de la femme, mais jamais pour son égalité avec l'homme. Je m'engage pour faire en sorte que les femmes ne soient plus exclues de la vie publique, mais les mettre au même niveau que les hommes serait la pire erreur de l'humanité. On a beaucoup de messages. Abdourahmane résume bien, je dois dire, l'opinion globale de ce qu'on a sur Facebook. On est, oui, il faut faire avancer les droits des femmes jusqu'à un certain point.
Il y a un élément, en fait, qu'on retrouve souvent, c'est qu'il y a une confusion, en fait, dans le terme d'égalité et le terme d'identité. La plupart des gens sont très opposés à ce qu'il y ait une identité entre hommes et femmes. C'est-à-dire dire que les hommes et femmes sont identiques. En revanche, je crois qu'il y a une très large majorité de gens qui aujourd'hui sont favorables à l'égalité des droits, l'égalité d'accès à la vie publique, à la vie politique, à la vie économique.
Donc égalité ne veut pas dire identique.
Pas du tout,
bien
sûr. Pas du tout, bien sûr. Pas du tout, bien sûr. Mais les deux mots sont utilisés de manière souvent similaire, ce qui crée des confusions.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses, parce qu'évidemment, je ne suis pas d'accord avec l'idée que un homme est identique à un autre. On est aujourd'hui toute l'humanité rangée en deux colonnes. D'un côté, les hommes qui devraient se comporter tous de la même manière, et les femmes qui devraient toutes se comporter de la même manière. Et l'idée de ce qu'on appelle l'égalité, c'est de brouiller toutes ces cartes pour que chaque individu puisse se comporter comme lui ou elle l'entend en dehors de son appartenance sexuelle. Donc en fait, c'est une grande ouverture, une grande libération, et c'est pas du tout l'idée de faire des clones entre hommes et femmes. Au contraire, c'est de briser ces chaînes d'enfermement de la construction du genre masculin et féminin.
Bon, aujourd'hui, chez 7 milliards de voisins, deux hommes qui s'engagent pour les femmes. On aimerait avoir évidemment votre point de vue, les voisins. Les hommes doivent-ils s'engager pour les femmes, et si oui, pourquoi, à votre avis? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. J'aimerais quand même en savoir plus sur vos cheminements personnels à tous les deux, Patrick Jean, Antoine de Gabrielli. Vous êtes donc des militants de la cause des femmes, hein. Vous en avez fait en partie votre métier d'ailleurs. Quels ont été vos cheminements personnels pour arriver à vous engager publiquement pour l'égalité entre les sexes, Antoine de Gabrielli?
Alors, moi, en fait, c'est d'abord un chemin familial. Comme souvent, ma mère travaillait, elle travaillait à égalité avec mon père. C'est un modèle qui m'a semblé extrêmement intéressant. C'est un modèle que j'ai reproduit, puisque quand je me suis marié, nous voulions avoir ma famille et moi une famille nombreuse. Et en fait, la seule solution qui nous a semblé évidente, c'était de créer ensemble notre entreprise, puisque nous pensions qu'il était impossible, c'est sûrement excessif, mais impossible de travailler tous les deux de manière engagée dans la vie professionnelle, tout en ayant une famille nombreuse. Donc c'était déjà finalement un constat d'échec par rapport à ce que la vie économique nous permettait à l'un et à l'autre. Ensuite, effectivement, dans mon travail, je forme beaucoup sur la question de l'égalité professionnelle, et j'ai toujours été frappé dans les conventions où j'allais sur ce sujet de voir qu'il y avait 95 à 99% de femmes. Et bien qu'il y avait quand même un problème.
Vous faites du conseil en ressources humaines beaucoup.
Voilà, tout à fait. Je forme en fait sur tous les sujets de la diversité, pour faire rapide. Et sur ce qui en parle d'égalité sans que les hommes, d'égalité entre hommes et femmes, d'égalité professionnelle dans mon domaine entre les hommes et les femmes, sans que les hommes soient dans le débat, il y a un problème. Et par ailleurs, j'avais le sentiment que on n'avait pas forcément utilisé les bons arguments pour convaincre les hommes, et que le discours que j'entendais, qui était soit dans l'agressivité, la culpabilisation, soit dans la bienveillance parfois paternaliste, l'un comme l'autre, en fait, n'était pas efficace. Et donc j'ai essayé de trouver comment mobiliser les hommes sur ce sujet, parce que effectivement, dans les entreprises, notamment dans le monde économique, notamment. Comme les hommes dominent très largement en termes de maîtrise de levier de pouvoir, sans les hommes avec soi, c'est beaucoup plus lent. Donc j'ai cherché à mobiliser les hommes.
Et pour vous, Patrick Jean ?
C'est toujours très compliqué, hein, pourquoi on s'engage dans les causes. Moi, j'ai commencé à faire des films, et des films documentaires, très politiques, très engagés. Je me suis rendu compte, après quelques films, que je m'intéressais au rapport de domination, où je suis moi-même dans le camp des dominants. Donc pour moi, c'est plus un cheminement politique, on va dire, mais étant et le revendiquant dans le camp du groupe social qui domine, qui donc a des privilèges, ça veut dire que de prime abord, je n'ai aucun intérêt à ce qu'on aille vers l'égalité, parce que je vais perdre des privilèges. Les hommes n'ont pas matériellement d'intérêt à aller vers l'égalité. Faut pas, on ment beaucoup sur cette question-là. Et donc, la question, c'est pourquoi y aller? Et moi, je ne vois qu'une raison, c'est une raison éthique. Il faut aller vers l'égalité parce que c'est juste. Pas parce qu'on a des choses à y gagner. Or, ce qu'on voit, c'est que l'engagement, c'est pour ça que par rapport à ces missions, il faut être quand même très 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 prudent. L'engagement des hommes dans l'égalité se fait, et toutes les études le démontrent de manière très éclatante, l'engagement des hommes se fait parce qu'il y a des bénéfices secondaires à en retirer. Dans les grandes associations dites féministes, par exemple, mixtes, beaucoup d'hommes se sont engagés quand il s'agissait de prendre la parole, beaucoup plus souvent, de prendre des postes, d'être président des associations, etc. Quand les associations se sont organisées pour qu'il y ait une répartition plus juste des postes et des honneurs, eh bien les hommes ont disparu. Et donc, y compris par rapport à nous, je pense que c'est un questionnement qu'on doit avoir au quotidien, de savoir pourquoi on est là. Et regardez, le fait qu'on soit invité dans une émission sur une radio telle que la vôtre, voilà un privilège. Symboliquement, c'est un privilège assez fort.
J'aurais pu être invité pour une autre raison, hein, ceci dit.
Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'un homme parle au nom de l'égalité et se dit égalitaire, bah, tout à coup, bah, il se retrouve sur les podiums à côté de femmes qui militent depuis 30 ans.
Finalement, vous avez envie d'être un homme éclairé. Quand vous parlez de raison éthique, vous auriez grandi au siècle des Lumières, vous auriez été anti-esclavagiste.
Mais je pense que nous sommes dans ce combat-là très éclairés, entre autres par le siècle des Lumières, bien sûr. Bien sûr, à relire évidemment à la lumière de la sociologie et de ce que nous connaissons aujourd'hui de tous ces rapports entre les femmes et les hommes.
Nous parlons des hommes engagés pour les femmes, pour l'égalité entre les sexes. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. It's when you're walking. Chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous donnons aujourd'hui la parole à des hommes qui s'engagent pour les femmes, pour les droits des femmes, pour l'égalité entre les sexes. Et bien sûr, vous avez la parole, les voisins. Les hommes peuvent-ils, doivent-ils s'engager pour les droits des femmes? Et si oui, pourquoi? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, on a envie d'avoir des hommes sur la question, mais vous le savez, les femmes, le standard n'est jamais fermé. On accueille une voisine qui nous appelle de Dakar au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Ndaï Fatou.
Bonjour Emmanuel, vous allez bien?
Très bien, vous êtes la bienvenue chez 7 milliards de voisins. On vous écoute, vous souhaitiez participer au débat, même si c'est vrai qu'on a dit au début de l'émission que ça allait, on allait laisser largement la place aux hommes pour qu'ils nous donnent leur opinion. Alors vous, comment vous percevez le débat à Dakar?
L'égalité femmes-hommes, c'est une question très, très, très actuelle à Dakar. D'abord, moi, je travaille dans une entreprise sociale qui milite pour l'égalité hommes-femmes dans les pratiques managériales des institutions au Sénégal. Voilà. Pour mon opinion personnelle, moi, je pense que c'est très normal que les hommes se sentent perturbés dès qu'on parle de l'égalité femmes-hommes parce que ils seront dans l'obligation d'assister à une redéfinition des rôles pour lesquels ils n'ont pas été préparés.
Ouais.
C'est très normal qu'ils se sentent dérangés dans leur identité. La socialisation n'a pas permis à ces hommes de faire face à un nouvel ordre égalitaire en termes de sexe entre l'homme et la femme.
Uh-huh.
Et je pense que l'égalité femme-homme, c'est au-delà des rapports entre l'homme et la femme. C'est tout un enjeu sociétal, c'est tout un... Je vois que c'est très réduit entre les relations entre l'homme et la femme, alors que ça engage toute une société. L'enjeu est beaucoup plus énorme que l'homme.
Et vous travaillez, vous le disiez, dans une société qui essaye de promouvoir le changement managérial, c'est ce que vous nous disiez?
En fait, c'est une entreprise sociale qui milite pour un leadership féminin jeune.
Oui.
Un leadership féminin et jeune à travers la promotion de l'égalité des gens dans les instituts, dans la pratique de manière générale des institutions, promouvoir un leadership féminin dans les institutions. Et puis, bien qu'on a, au Sénégal, on a eu à voter la loi sur la parité, ça fait depuis 2000.
Oui, alors faut préciser que la loi sur la parité en politique fait qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale, enfin, il y a plus de 40% de femmes, donc beaucoup plus qu'en France, hein, il faut bien le préciser. Qu'est-ce que les hommes ont à y gagner dans l'affaire, dans les entreprises sénégalaises, par exemple?
Voilà, même en dehors des entreprises sénégalaises, une politique égalitaire entre les sexes va profiter aux hommes du moment où, dans la définition des rôles, dans l'institutionnalisation des rapports sociaux en termes de genre et tout, les hommes sont trop chargés. Les obligations auxquelles ils sont soumis, c'est énorme. Et du moment où
vous parlez du poids des traditions, de finalement le fait que les hommes soient à la tête de la société, soient décideurs, finalement ont un poids sur les épaules trop important. C'est ça, hein, finalement. C'est intéressant. Daïf Atou, je suis désolée, la ligne est vraiment en train de se dégrader, la ligne téléphonique, mais je ne sais pas ce que vous pensez de l'analyse de notre voisine à Dakar sur finalement, quand on est dans des sociétés relativement conservatrices, traditionnelles, patriarcales, les hommes ont un poids trop important sur les épaules.
Non, moi je suis totalement en opposition avec cette idée parce que c'est une idée qui est beaucoup défendue chez nous, y compris dans l'égalité professionnelle. C'est l'idée que le fait d'être un homme, ça impose une charge, etc. Mais c'est la charge de celui qui domine, c'est la charge de celui qui a le pouvoir, oui. C'est la charge de celui qui gagne plus d'argent. Alors, si c'était une charge tellement lourde, pourquoi nous les hommes, on ne déciderait pas instantanément de s'en défaire? Si on milite autant, si globalement les hommes conservent ce machisme, cette volonté de pouvoir, etc., c'est parce que c'est trop bon, parce que c'est trop confortable. Je pense que en Afrique, il y a un discours qu'on peut entendre. C'est la comparaison avec le discours colonialiste. Le colon, les pays colonisateurs, ils avaient le pouvoir sur les pays qu'ils colonisaient. Et la fin des colonies n'est pas arrivée parce qu'un jour les peuples colonisés ont demandé avec des s'il vous plaît, des merci. C'est parce qu'ils se sont soulevés et c'est parce qu'ils ont revendiqué leur indépendance, leur liberté, qu'à un certain moment, ceux qui les dominaient ont été obligés d'une certaine manière de lâcher du lest. Et n'ont pas tout lâché, n'ont lâché que des morceaux. Mais c'est exactement le même rapport dans le rapport entre les femmes et les hommes. Nous les hommes, nous avons des privilèges. Et encore une fois, si c'était si lourd d'avoir ces privilèges, on les lâcherait en un instant. Ouais, seul exemple, à charge salariale constante, à masse salariale constante, en France, si on passait instantanément à l'égalité, nous les hommes, nous aurions nos salaires qui baisseraient instantanément. Est-ce que les hommes accepteraient ça? Bien sûr que non.
33-1-84-22-71-71, Alceni vient de nous appeler de Conakry, en Guinée. Bonjour Alceni.
Oui, bonjour madame.
Vous avez 29 ans, on vous écoute.
Bon, moi je pense que le principe d'égalité entre l'homme et la femme, je crois que l'homme est le principal obstacle pour le respect et l'application de ce principe. Dans la mesure où dans les foyers, chez nous en Afrique ici, et même dans les services, généralement, la femme est considérée au second plan. Dans les foyers, l'homme qui est l'obstacle, il considère la femme avant tout comme un élément à son service, qu'il peut utiliser comme il veut. Et il est hostile au principe d'égalité. Et dès qu'on le parle, pour lui, mettre l'homme et la femme au même pied d'égalité, d'amener la femme à se taper la poitrine d'une manière à une autre, ou bien l'empêcher lui-même, c'est-à-dire que bafouer en partie son autorité.
Et vous, quel est votre point de vue, Alceni?
Moi, mon point de vue est que l'homme est l'obstacle pour le respect et l'application de l'égalité.
Donc vous êtes un homme, donc vous êtes un obstacle?
Non, oui, moi je suis conscient de cela, donc c'est pourquoi moi je me bats pour que l'homme et la femme soient traités au même pied d'égalité, parce que je sais que la femme a des potentialités.
Et quand vous tenez ce genre de discours, comment vous êtes perçu à Conakry?
Pardon?
Quand vous tenez ce genre de discours, comment vous êtes perçu à Conakry?
Eh bien, je suis perçu comme vraiment quelqu'un qui est déraciné, comme quelqu'un vraiment...
Alceni le déraciné. Merci de nous avoir appelé. Il faut que je rende l'antenne pour le flash. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé. Vous continuez de nous appeler les voisins et de réagir, hein, surtout si vous n'êtes pas d'accord. 33-1-84-22-71-71. La parole est aux hommes qui s'engagent ou pas pour les droits des femmes sur RFI. Hey.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Quand les hommes s'engagent pour les femmes, on en discute aujourd'hui avec vous, Patrick Jean. Vous avez publié « Les hommes veulent-ils l'égalité ?». Vous êtes cofondateur de l'association Zéro Macho, un réseau qui lutte contre la prostitution et bien sûr qui prône l'égalité entre les sexes. Antoine de Gabrielli, vous êtes chef d'entreprise. Vous présidez le mouvement Happy Men et l'association...
Mercredi, c'est papa.
Mercredi, c'est papa. Voilà, ça le mérite d'être très clair comme nom d'association. Vous souhaitiez réagir d'ailleurs, Antoine de Gabrielli, à ce que nous disait Patrick Jean sur, finalement, Patrick Jean, vous disiez en première partie d'émission, les hommes oppressent les femmes et ça les arrange bien, c'est pas vrai, ils ne sont pas pris au piège d'un modèle de société et ce n'est pas par eux qu'arrivera le changement. Si j'ai bien compris, vous êtes évidemment aujourd'hui encore extrêmement minoritaire. Vous nous avez expliqué vos mobiles personnels, dans vos cheminements personnels en première partie d'émission, Antoine de Gabrielli, père de famille, 6 enfants avec une volonté conjointe avec votre épouse de construire une famille autrement finalement. Hein. Vous souhaitez réagir d'essayer. Alors
Oui, je crois que les hommes comme les femmes sont soumis à des stéréotypes. Pour les hommes, les stéréotypes dans le monde du travail, de la réussite professionnelle et sociale sont très importants. Alors, il y a des hommes effectivement qui veulent rien changer au système dans lequel ils vivent, c'est très clair, et qui satisfont tout à fait d'une division du travail tout à fait inégalitaire. Vous en avez d'autres qui le souhaitent. Et ils souhaitent vraiment, on a mené une étude avec l'IFOP, 55% les hommes pensent qu'ils sacrifient leur vie privée, leur vie professionnelle, et qu'ils pourraient en être autrement. Et
c'est un chiffre qui ne fait que grandir d'ailleurs.
Alors je sais pas s'il grandit, mais le pourcentage est très important.
Mais on pourrait avoir le même chez les femmes.
Bien sûr, mais si vous voulez, ce qui est important, c'est de voir que les hommes qui ont envie de changer ce système, d'être plus présents dans leur vie familiale, de mieux partager dans leur couple le cas échéant, en fait, il y a tout un système de représentation dans le monde professionnel qui rend ça difficile.
Dire les hommes sont prisonniers d'un système.
Si vous voulez, par exemple, un homme qui demande à prendre son mercredi après-midi pour s'occuper de ses enfants, par exemple, c'est mal parti pour sa carrière parce que le regard des autres hommes sur cette proposition, que ce soit leur regard hiérarchique ou même des collègues, sera en général très dépréciatif.
Ouais. Alors qu'une femme qui demande à prendre son mercredi après-midi, c'est beaucoup moins mal vu.
C'est moins mal vu, mais en fait, c'est beaucoup plus classique. Si vous voulez. Et notre point de vue, nous, c'est que le jour où un homme pourra prendre son mercredi après-midi ou son mercredi ou à 4/5 ou un mi-temps sans être considéré comme désengagé dans sa vie professionnelle, alors on aura fait un pas gigantesque dans la rupture du plafond de verre que les femmes rencontrent quand elles-mêmes, elles souhaitent avoir un temps aménagé.
Patrick Jean, vous n'y croyez pas.
C'est ce qui nous oppose radicalement, c'est que votre discours pose la question de l'égalité en termes de recherche d'avantages pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes souffrent, les hommes aimeraient bien faire ceci, les hommes aimeraient bien faire cela. D'abord, on voit bien que c'est déclaratif. Alors, quand on fait des sondages, oui, ils le disent. Quand on mesure dans les faits, ils ne le font pas du tout, les tâches ménagères et parentales. C'est toujours les femmes, y compris dans les familles où les hommes disent, oui, moi je veux le faire, etc. En fait, ils le font pas. Et peut-être que d'ailleurs, vous et moi, si on nous regardait en détail, peut-être qu'on aurait des choses encore à améliorer. Mais cette idée qu'il faut aller vers l'égalité parce que ça va être bon pour les hommes, c'est une vision utilitariste qui, moi, sur le plan éthique, me choque. Encore une fois, il faut aller...
Utilitariste ou utopique?
Non, pas du tout. Anti-utopique. Complètement utilitariste. Il faut que ce soit utile pour les hommes. C'est-à-dire il faut que ce soit utile pour les dominants de remettre en question le rapport de domination. C'est absurde. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises américaines, on a un phénomène, parce qu'on parle beaucoup de l'égalité des sexes, etc., on a un phénomène qu'on appelle le gender fatigue. Ça fait quelques années qu'on en parle et beaucoup d'hommes commencent à dire, bon, ça va, on a assez parlé de cette histoire-là, maintenant passons à autre chose. Parce qu'évidemment,
aussi dans un débat qui est largement confisqué par les femmes. Qui travaillent dans les laboratoires sur le genre sont des femmes, beaucoup.
Mais, et aussi parce que les hommes ont bien compris que tout ça c'était dans l'heure et qu'au final, quand ils devraient se mettre à faire la vaisselle, à prendre leur mercredi, à s'occuper des enfants, etc., ce serait beaucoup moins enrichissant, beaucoup moins amusant que d'aller boire des verres avec leur chef de service et d'avoir des promotions.
Dans les entreprises,
non, pas du tout. Pas du tout.
Parce qu'ils disent, c'est sûr. La question, c'est ce qu'ils font.
Alors non, bien au contraire, nous enfin on l'assiste, c'est très caractéristique chez Happy Men et dans les cercles Happy Men dans les différentes des entreprises, c'est qu'on a des hommes qui, au contraire, voudraient notamment... Alors, effectivement, Patrick a raison sur la question du partage des tâches domestiques. C'est un point dur sur lequel l'égalité est loin encore. En revanche,
mais
on a au moins...
Sur l'exercice du rôle de père, passer plus de temps avec ses enfants
et du couple. Et du couple. Dans les deux points qu'on avait montrés comme étant les plus mal vécus, en fait, les plus en compétition avec la vie professionnelle, on a bien sûr les enfants, mais au-dessus des enfants encore, il y a le couple. C'est le temps qu'on peut dévolure, qu'on peut donner pour le couple. Et autant on voit assez bien que hommes et femmes sont prêts en fait à pas mal de sacrifices pour que les enfants ne soient pas maltraités, si on peut dire mal éduqués, mais autant le temps du couple est une variable d'ajustement qui est très dangereuse et qui fait souffrir beaucoup de gens.
Alors aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment un débat qui est passé dans la sphère publique. Hein, pour quel résultat? Bon, bah sur les places en politique, ça reste toujours aussi dur. Mais en tout cas, on a un débat politique depuis quelques mois sur le prix des protections hygiéniques pour femmes. Qui aurait pu un jour imaginer un truc pareil, sans parler des photoshocks à l'hémoglobine via les réseaux sociaux. Le Royaume-Uni envisage de demander à la Commission européenne de se pencher sur le prix des tampons et des serviettes hygiéniques. La mobilisation fait rage dans plusieurs pays, dont la France, pour un tarif plus juste, c'est-à-dire taxer ces produits comme des produits de première nécessité, donc avec moins de TVA, qui aujourd'hui on a une TVA à 20%. On est en ligne avec une femme, là, désolé, hein, exceptionnellement vous confisquez le débat, messieurs, avec la députée socialiste Catherine Coutel. Bonjour.
Bonjour.
Vous réclamez la suppression de ce qu'on appelle désormais la taxe tampon. Vous n'avez toujours pas obtenu gain de cause en France.
Alors je ne demande pas la suppression de la taxe tampon. Je demande que ces produits de première nécessité pour les femmes et indispensables aient une TVA à 5%.
Donc largement réduite.
La TVA des produits de première nécessité ou des produits de santé. Ce qui nous paraît tout à fait justifié par la nécessité. Les femmes, ne quoi qu'elles fassent, ne peuvent pas s'en passer.
Les sodas, par exemple, sont taxés à combien aujourd'hui?
Alors, c'est très variable. Je suis allée voir ça parce que j'ai entendu la comparaison. C'est très variable et c'est très complexe, nos TVA. Si vous le buvez sur place, ils sont à, j'espère que je ne vais pas me tromper dans l'ordre, ils sont à 20%. Si vous les emportez, ils sont à 10%. Enfin, c'est très variable. Mais ils sont moins taxés. Pour certains, dans certains cas, ils sont moins taxés que les tampons, effectivement.
Aujourd'hui, donc, de nombreux pays ont déjà des TVA bien moins importantes sur ces produits d'hygiène indispensables pour les femmes. Qu'est-ce qui bloque en France?
Ce qui bloque, c'est pas le principe là, hein. c'est pas une taxe anti-féministe, si je puis dire. Ce qui bloque, c'est qu'on a des taux TVA qui sont très brouillés, hein. Il faudrait refaire le ménage dans ces taux TVA. Et ce qui a bloqué dans le débat dans l'Assemblée, c'est que le gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui toucher à des taux TVA, parce qu'il se dit que s'il commence dans un taux, sera entraîné dans bien d'autres taux. L'argument que moi j'ai déployé et que je referai, hein, on reposera cet amendement une autre fois, c'est de dire c'est un produit de première nécessité. La justification, c'est celui-là. Hein. Les femmes ne peuvent pas se passer de ce produit et donc il n'y a pas de raison qu'elles le paient comme un produit.
Vu de loin comme ça, c'est quand même... Alors, on est sur un sujet extrêmement tabou dans toutes les cultures. Hein, les règles, le cycle hormonal, à part dans le domaine de la santé stricte, que tout ça arrive en débat à l'Assemblée nationale, peut sembler assez surréaliste. Le Luxembourg, d'ailleurs président du planning familial, réclame un dérèglement fiscale avec pas mal d'humour. L'Australie a, ça y est, passé une TVA à 5,5. Non, d'ailleurs, elle a été même supprimée, la TVA à 5,5. Hein. La Malaisie a fait des pétitions en ligne aussi. En Suède, il y a des blogueuses qui réclament le remboursement par la sécurité sociale suédoise de ces produits de première nécessité. C'est assez étonnant, non?
Oui, j'avoue que je suis très surprise de l'ampleur de la réaction suite à cet amendement. Hein. Moi, je l'avais déposé, on en a discuté, il était 1h15, mais ça fait partie du
matin.
Débat.
Hein.
Oui, 1h15 du matin. Et c'est vrai que je craignais un petit peu le débat. Il a été de très bonne tenue à l'Assemblée. Il n'a pas du tout dérapé. Il y a un député homme qui a pris la parole en disant c'est un sujet pas facile pour un homme de parler de ce sujet. Hein, mais j'ai interrogé mes collaboratrices pour savoir ce qu'elles en pensaient. Donc le débat a été de tout à fait bonne tenue et très correct. Il n'a pas du tout dérivé, heureusement. C'est vrai que c'est pas un sujet habituel, mais le principe de la TVA, c'est que c'est des produits très concrets. Hein. C'est la vie concrète, c'est la vie de tous les jours. Et là, c'est une question d'égalité et c'est une question de justice pour les femmes, parce que c'est des produits de première nécessité. D'ailleurs, puisqu'on est sur RFI, c'est un sujet, quand j'en ai parlé aussi à des femmes du planning familial, elles me disent qu'en Afrique, c'est un sujet qui pose de gros problèmes. Le coût de ces serviettes hygiéniques, les jeunes filles ne sortent plus les mois, le temps de leur menstruation, elles n'osent pas aller dehors parce que elles ne peuvent pas se les acheter ou elles ne sont pas sûres d'elles, etc.
Si on avait plus de femmes élues à l'Assemblée nationale, hein, puisqu'on tourne autour d'un quart, hein, on est quand même avec un pourcentage assez bas, est-ce que pour autant vous pensez que ce genre de discussion pourrait aboutir plus vite?
Oui, sans doute, mais pas seulement. pas seulement parce que j'entendais votre discussion intéressante préalablement, nous avons des hommes qui défendent bien cette égalité femmes-hommes, hein, et Patrick Jean, que je connais par ailleurs, en fait bien sûr partie, mais pas seulement parce que là j'ai vu des femmes qui avaient plutôt l'air d'accord avec moi et qui au dernier moment ont levé la main, des femmes les Républicains. J'ai été un peu surprise. Par contre, j'ai le témoignage d'une autre députée qui n'était pas dans l'hémicycle, qui m'a dit, moi Catherine, si j'avais été là, j'aurais voté cette TVA à 5,5. Donc, les femmes ne sont pas toujours les meilleures défenseurs des femmes. Hein.
Bon, affaire à suivre. Merci infiniment Catherine Coutel d'avoir été en ligne avec nous. Patrick Jean, Antoine de Gabrielli sur cette question-là.
Question fiscale, je crois que Catherine Coutel l'a très très bien dit. Le problème, c'est que enlever une taxe, en remettre une, ça n'est qu'un problème de taxes. Je pense qu'il y a un consensus extrêmement large sur le fait que ce type de produits soient des produits de première nécessité.
Sur remarque de Catherine Coutel, les femmes ne sont pas forcément les meilleures défenseurs de leurs propres droits sur des sujets de ce type.
C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit. Et moi, ce que je retiens deux choses vraiment très intéressantes dans ce qu'a dit Madame Coutel, c'est que d'abord, effectivement, la présence des femmes dans les assemblées, c'est important parce que, par exemple, cette question des tampons et des protections, moi, en tant qu'homme, je n'y aurais jamais pensé. Ça veut dire que nous avons, en tant qu'homme et en tant que femme, une connaissance du monde qui est différente. Un exemple, si je garde ma voiture dans un parking souterrain à 3h du matin, j'aurais peut-être peur qu'on me vole ma voiture, mon portefeuille, qu'on me frappe, peu importe. Je ne penserai jamais à l'agression sexuelle. C'est une chose qui n'existe conceptuellement, ça n'existe pas pour moi. Vous, en tant que femme, très certainement, vous allez y penser. Donc ça veut dire qu'on a, en tant qu'homme et femme, parce qu'on est dans des positions, mais aussi en tant que blanc, noir, blanc, arabe, etc., dans notre société occidentale, une vision, une perception du monde qui va être différente. Et donc il est très
du
important.
Fait de la différence physique, en fait.
Du fait de la différence sociale, de la position que nous occupons dans la société, en tant que dominant, dominé, favorisé, défavorisé, avec des privilèges ou non. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, ce que j'entends, c'est qu'évidemment, cette histoire, on aurait pu s'attendre à ce que les hommes à l'Assemblée nationale, majoritairement, et le gouvernement se disent, mais oui, on n'y avait pas pensé, mais bien sûr, mais c'est de la première nécessité, mais changeons cette TVA, qui pourrait s'opposer à ça? Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'il y a une justification, par oui, mais c'est compliqué, la TVA, si on y touche, etc. On va utiliser toutes sortes de raisons pour surtout ne pas donner du grain à moudre à celles et ceux, mais surtout à celles qui seraient là pour changer le modèle. Parce que en tant que membre d'un groupe dominant, encore une fois, que ce soit homme, femme, colonisant, colonisé ou autre, blanc-noir, celui qui est dans le groupe dominant, celui qui est du bon côté du manche, il a peur de perdre son rapport de domination parce qu'il est tellement confortable qu'il a peur de ça. Il se dit, bon, peut-être pour la génération suivante, mais surtout pas pour la mienne. Eh bien, si, aujourd'hui, il faut se dire, bah si, il faut que ça vienne tout de suite et plus vite.
33 1 84 22 71 71. En quelques instants, on prend une voisine qui nous appelle de région parisienne cette fois.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons Julie qui nous appelle de Paris. Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
On vous écoute sur les hommes qui défendent les droits des femmes. Vous y croyez?
Je pense qu'on devrait relever un petit peu le débat et essayer de comprendre pourquoi il est important, capital, que les hommes et les femmes aient des droits égaux. C'est pas une question de pouvoir faire pipi comme les hommes. Ça n'a rien à voir.
Non, c'est jamais ce qu'on a dit, depuis le début de l'émission.
Oui, mais parce que certains le perçoivent comme ça, en fait. Certains hommes se disent qu'on veut être pareil qu'eux. Moi, j'ai pas besoin d'être comme un homme, mais je viens à Lubumbashi, en fait, et dans des pays de subsahariens ou des pays en voie de développement, vous avez quelque chose de tragique. Parce qu'on ne veut pas que les hommes et les femmes soient égaux, et bien les petites filles ne vont pas à l'école, ou ne vont pas à l'école aussi longtemps que les hommes. Et ça fait que quand vous vous retrouvez dans des situations de guerre ou de grandes crises, ce sont les hommes généralement qui meurent, et la pauvreté est accrue parce que justement, au départ, on n'avait pas une égalité face à l'éducation. Et quand en plus vous ne mettez pas des femmes politiques qui militeront pour ce genre de choses, parce que malheureusement les hommes ne le feront pas, et ben vous restez dans ce système-là et vous avez la pauvreté qui s'accroît dans des pays qui auraient pourtant des potentiels de croissance économique, mais parce que la femme est censée être soumise et pas du tout égale à l'homme, mais pas au point administratif et juridique. L'homme le voit en termes d'identité.
Donc si je suis votre raisonnement, rien ne peut bouger tant qu'on n'a pas des femmes décideurs à la même hauteur, dans la même proportion que les hommes, que ce soit dans la sphère politique, dans la sphère économique.
Au niveau de l'Afrique, je pense qu'effectivement, il faut de plus en plus éduquer les femmes. Parce que vous verrez aussi des femmes qui défendent le fait de pas porter de pantalon, de l'habillement qui doit être différent, mais qui n'ont pas encore compris que ce qui est fondamental, c'est d'éduquer les femmes.
Mmh. Alors, femmes ceci dit, je voudrais laisser nos invités réagir en studio, rester en ligne, hein, Julie. En France, les femmes, et d'ailleurs dans une grosse majorité des pays européens, les femmes sont plus diplômées que les hommes, hein, il faut le préciser.
Nettement plus.
D'ailleurs, moins au chômage que les hommes. Hein.
Oui, aussi, nettement plus, puisqu'elles sont 58% maintenant des diplômées d'enseignement supérieur. On est à 70% aux États-Unis. Elles sont nettement plus diplômées. Néanmoins, elles n'ont pas le même accès à tous les diplômes. Dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, vous avez 25% de femmes seulement, 50-50 exactement dans les écoles de management. Il y a un progrès très important qui est fait, mais ça ne suffit pas, de fait, à permettre aux femmes d'occuper les mêmes responsabilités que les hommes.
Ouais, Patrick Jean.
Mais madame a parfaitement raison. Il y a un mot qu'elle n'a pas employé, mais d'une certaine manière, elle a tourné autour, c'est le mot pouvoir. Tout tourne autour de la notion du pouvoir. Le pouvoir économique et financier, le pouvoir symbolique, le pouvoir politique, le pouvoir d'achat. C'est autour du pouvoir que ça se joue. Qui a le pouvoir? Comment le pouvoir est réparti? Et on voit que dans nos sociétés, en Occident aussi, même si ça bouge, évidemment, le pouvoir est très mal réparti. Et donc, aller vers l'égalité, c'est répartir ce pouvoir pour que, à diplôme égal, à compétence égale, une femme et un homme puissent obtenir le même travail et le même salaire. Parce qu'aujourd'hui, en France, 27% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, c'est quand même considérable.
Oui, si on compte le temps partiel.
Et si, alors on va dire précisément.
À emploi du temps égal, à diplôme égal, on a
10%.
Beaucoup moins.
10%, ça veut dire que le même,
ça fait pas mal à la fin de l'année.
Deux personnes qui ont le même diplôme, qui ont la même fonction, au prix à l'heure, il y a une différence de 10% entre les hommes et les femmes. C'est considérable, bien sûr.
Voire plus dans les milieux cadres.
Plus on monte en hiérarchie, plus la différence est forte. Hein. Et ça tient aussi au fait que les femmes sont surconcentrées dans certaines fonctions dans l'entreprise, notamment si on pense aux fonctions RH ou communication, qui sont nettement moins rémunérées que d'autres fonctions.
Ce ne sont pas des métiers opérationnels.
Absolument. Et l'autre élément effectivement qui rentre en compte dans la différence salariale, c'est que les femmes accèdent nettement moins aux responsabilités que les hommes. Et donc, au moins, les rémunérations hautes auxquelles correspondent ces hautes responsabilités. Juste deux chiffres, hein, le 90% des postes de CODIR, c'est-à-dire de comité de direction ou comité exécutif, 75% des cadres supérieurs sont des hommes. Hein, donc ça, ça rentre directement dans l'écart global constaté entre hommes
et
femmes.
Et on en revient à la question de l'égalité. Si on considère que il faut une égalité, mais pas une identité, qu'il y aurait une identité différente entre hommes et femmes, etc., on en arrive à quoi? Eh bien, on en arrive à des hommes et des femmes qui arrivent à des postes de cadres supérieurs, mais on dit oui, il y a quand même une différence. Donc les femmes, eh bien on les met du côté de la direction des ressources humaines, beaucoup moins payées, et les hommes on les met du côté de la direction de financière, beaucoup mieux payées. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en prendre aussi à cette idée que on serait tellement différent, on aurait une essence différente les hommes et les femmes. Non, tout ça c'est une construction culturelle qu'on peut remettre en question. Sur le plan intellectuel, il est prouvé scientifiquement aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence innée entre hommes et femmes. Les différences, elles arrivent parce qu'elles sont construites par l'éducation et par la culture. Et donc, il faut remettre tout ça en question.
Julie, vous souhaitez réagir? Sinon, on accueille d'autres auditeurs.
Oui, bon, je disais effectivement, mais même quand, vous verrez au Congo, même quand une femme travaille et qu'elle rencontre son conjoint dans le milieu du travail, très souvent, le conjoint lui demandera de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont diplômées. Mais en termes de pourcentage d'éducation, on en reste quand même à plus d'hommes. Sur la région subsaharienne, plus de garçons qui vont à l'école que de filles. Et je pense que ce serait un axe sur lequel s'orienter pour pouvoir un peu faire bouger les choses. Parce que le débat est amené chez nous par vous, en fait.
Alors, ceci dit, une auditrice nous disait tout à l'heure, elle qui nous appelait de Dakar, il y a un vrai problème aussi, c'est que les hommes n'ont pas eu l'éducation qui pourrait leur permettre de comprendre comment on peut trouver sa place en tant qu'homme dans une société un peu différente. En gros, hein, ils sont perturbés, ils sont perdus. Est-ce que ça pourrait changer dans la génération suivante? On a eu un voisin guinéen de moins de 30 ans qui nous a appelé, qui partageait pas qui était plutôt de votre côté, messieurs.
Alors, Chantal Del Sol, par exemple, disait récemment que, en fait, on pouvait constater qu'on pouvait dire, en tout cas, que si les femmes étaient dans le 21e siècle, les hommes étaient encore souvent dans le 19e siècle. C'est vrai que les femmes sont entrées massivement dans le monde des hommes, qui était le monde professionnelle, les hommes ne sont pas rentrés dans le monde des femmes qui était le monde privé. Et je crois qu'il y a là tout un champ à ouvrir très important dans lequel certains hommes ne veulent pas rentrer, mais dans lequel beaucoup d'autres veulent rentrer. Et il faut réfléchir à comment le faire. Et dans le monde de l'entreprise, ce qu'on voit, dans le monde du travail, ce que l'on voit, c'est que la culture et les règles en fait de management imposent en fait un engagement qui n'est pas cohérent avec un engagement privé en dehors du travail. Ce qui donc en fait un monde d'hommes. Et aujourd'hui, effectivement, il faut changer cette culture. Et c'est pas si difficile qu'on le pense. Et changer ces règles de manière à ce que hommes comme femmes, nous puissions travailler professionnellement de manière engagée comme nous souhaitons pour la plupart et avoir l'investissement dans la vie privée, pas seulement familiale, dans la vie privée dont nous avons besoin.
C'est-à-dire l'épanouissement, je m'épanouis en tant qu'homme finalement.
Hein, en tant qu'homme et en tant que femme, on est je crois en majorité, pas tout le monde, mais c'est leur choix. On est en majorité en tout cas dans les sociétés développer, à vouloir faire les deux. Et on peut le faire au prix de changements modestes, qui sont avant tout des changements de culture.
Je voudrais qu'on parle de l'association Zéro Macho, Patrick Jean, parce que ça, c'est un combat qui vous est cher. La loi qui vise à pénaliser les clientes prostituées n'est toujours pas en vigueur.
Mais c'est pour bientôt.
C'est pour bientôt, vous
y
croyez ?
Ah oui, on y croit, oui, on est très optimiste.
Retoqué au Sénat,
des
allers-retours entre l'Assemblée et
Oui, ça passera par une commission mixte paritaire. Madame Coutel, Madame la députée Coutel qu'on a entendu tout à l'heure, est une des grandes des personnes qui portent cette loi. Et nous sommes très optimistes.
Les blocages viennent des hommes essentiellement ou pas seulement ?
Évidemment. Alors là, c'est très clair. Il y a plusieurs études qui le montrent. Les blocages viennent des gens plus âgés, hommes comme femmes, et essentiellement des hommes. Autrement dit, plus vous êtes femme et plus vous êtes jeune, plus vous êtes pour la pénalisation des clients de la prostitution.
Mais on a aussi entendu des femmes prostituées qui, au-delà du fait qu'elles ne tenaient pas à perdre leur gagne-pain, disaient il y a des hommes esselés sexuellement qui ont besoin d'être réconfortés et c'est un métier qui a une utilité dans la société. On a entendu des femmes prostituées tenir ce discours-là.
Oui, deux ou trois, oui. On n'a pas entendu les dizaines de milliers qui n'ont pas la parole parce que si elle parlait, elle mourrait instantanément. C'est toujours le problème, c'est qu'il faut qui écoute-t-on ? Est-ce qu'on écoute des personnes qui se disent prostituées, qui se disent libres, qui ont une parole libre, alors qu'on ne sait pas si elles ont un proxénète, si elles sont dans un réseau ou autre, ou est-ce qu'on écoute des femmes qui sont sorties de la prostitution ? Parce que quand on écoute celles qu'on appelle les survivantes, qui sont sorties, donc qui ont une parole libre et qui ont pu prendre le temps de se reconstruire et d'analyser le phénomène de la prostitution, elles sont toutes, sans exception, contre la prostitution. Toutes, y compris celles qui, avant, défendaient la prostitution, disaient, mais laissez-nous, c'est notre gagne-pain. Une fois qu'elles en sont sorties, elles disent toutes, c'est une horreur, il faut arrêter ça immédiatement. Et ce que nous pensons, en tant qu'hommes, encore une fois, conscients de nos privilèges, c'est que la prostitution est une fois de plus un privilège masculin, puisque 100% des clients sont des hommes, quel que soit le sexe de la personne prostituée. Et que, évidemment, c'est une violence qui est faite essentiellement aux femmes. Et que, ben, nous avons aujourd'hui envie de vivre dans une société plus égalitaire et où le corps des femmes n'est pas un objet qu'on peut vendre.
Pour vous, Antoine de Gabrielli, est-ce que c'est la pénalisation des clients de la prostitution, c'est déjà le cas dans d'autres pays d'ailleurs, pourrait avoir une efficacité ou est-ce que votre position, c'est comme certaines associations qui disent de toute façon tout sera encore plus caché et donc les prostituées seront dans des situations encore plus compliquées.
Alors c'est un sujet dont je ne suis en rien spécialiste. Ce que je peux simplement le gérer, j'entendais la semaine passée que près de 90% des femmes qui se prostituent le font à travers des réseaux donc de proxénétisme. Je pense que cette prostitution-là, effectivement, elle doit être combattue très vigoureusement et je pense que, effectivement, que la pénalisation des hommes dans ce cas-là est tout à fait justifiée. En revanche, je me souviens d'un livre qui m'a pas mal marqué de Virginie Despentes, qui a été prostituée elle-même, qui a écrit King Kong Theory. Elle raconte son expérience de prostituée et c'est libre, là, pour le coup, hors de tout réseau. Et c'est vrai que j'ai été frappé par l'humanité des relations qu'elle décrit avec ses clients. Donc voilà, je n'ai que ça à dire, je ne suis en rien spécialiste.
On accueille un dernier auditeur au 33 1 84 22 71 71. Bonjour cher.
Bonjour. Je voudrais participer à l'émission en fait dans le sens où les rapports hommes-femmes. Parce que moi je pense que c'est une question d'éducation en fait. Dans la mesure où j'ai eu des parents, mon père est né dans les années 20, ma mère dans les années 30. Ils travaillaient tous les deux. Mon père a toujours respecté ma mère et nous a éduqués dans ce sens-là. De ce fait, moi aujourd'hui, en tant qu'homme, la cinquantaine, j'ai autant de respect pour les femmes et c'est un rapport d'égalité que j'ai avec elles.
Donc concrètement, vous êtes prêt à lâcher quoi alors ? À lâcher une partie de votre salaire pour que les femmes gagnent la même chose en termes de tâches ménagères, tout ça, vous en êtes où concrètement ?
C'est-à-dire que si une femme a fait des études comme mes grandes sœurs qui ont fait des études supérieures, qui gagnent honnêtement leur vie, il n'y a aucun problème. Après, dans le rapport, c'est un échange au quotidien. C'est des compromis.
On est fait sur pour quoi, par exemple?
On est fait pour vivre ensemble, il va falloir qu'on trouve...
Oui, mais les compromis, c'est quoi? C'est quoi, par exemple, selon vous? Les hommes doivent accepter des compromis sur quel type de sujet?
Sur le type de sujet des salaires, de l'éducation, des enfants, du quotidien.
Oui, mais plus précisément.
Plus précisément, une femme qui a un bac plus 4 ou qui n'a pas fait d'études, qui a un boulot, qui gagne de l'argent dans l'entreprise, elle doit être épanouie. Elle doit être en mesure de faire...
On parlait de salaire. Concrètement, est-ce que, puisque si j'ai bien suivi votre raisonnement, Patrick Jean, pour que les femmes gagnent la même chose que les hommes, il faut forcément, à un moment donné, que les hommes gagnent un petit peu moins, à moins que les entreprises...
Augmentent les salaires globalement, mais à masse salariale constante, c'est une évidence.
Merci beaucoup de nous avoir appelés, cher, et merci à vous, Patrick Jean. Vous publiez « Les hommes veulent-ils l'égalité ?» aux éditions Belin, Antoine de Gabrielli. Le mouvement Happy Men et Mercredi, c'est papa, bien sûr, à retrouver sur les sites internet qui sont notés sur la page 7 milliards de voisins sur RFI.fr. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Sandrine Straram. Demain, 7 milliards de voisins, place au sport. Je ne sais pas si vous êtes adeptes tous les deux du jogging, course à pied.
Pas du tout.
Non? Bon, quand on commence à courir régulièrement, on ne peut plus s'arrêter. Les voisins, appelez-nous, écrivez-nous, dites-nous ce qui vous fait courir. À demain.